C'est quoi ton genre d'humour ?
C'est quoi ton genre d'humour ?
C'est quoi ton genre d'humour ? Un podcast qui questionne l'humour à travers le prisme du genre. Dans cet épisode, j'ai choisi de m'intéresser à l'humour dans la sphère familiale. Et plus précisément, aux figures maternelles et paternelles. Dans ma famille, j'ai associé longtemps l'humour à mon père et à mes trois grands frères, parce que, notamment lors de moments particulièrement révélateurs comme les repas, ils monopolisaient la scène. Rivalisant de jeux de mots et surenchérissant de pitreries, tandis que ma mère et moi étions largement réduites au rôle de spectatrice. J'ai donc indéniablement grandi avec l'idée que l'humour était avant tout un truc de papa.
Un truc de frère, un truc d'homme.
J'ai voulu savoir si cette construction m'était particulière ou si c'était révélateur d'une construction plus générale et sociale de notre rapport à l'humour. En discutant autour de moi, en me replongeant dans les films, les séries, les dessins animés, j'ai vite vu que ce constat n'était pas limité à mon cercle familial. Et que c'était diablement révélateur de logiques genrées très ancrées. Pour commencer, on parle bien de blagues de papa, pas vrai ? Épisode 1. Les blagues de papa. Avez-vous déjà entendu parler des blagues de papa ? Ou « dad jokes » en anglais. Ces blagues assumées comme nulles, qui ont donné lieu à tout un tas de déclinaisons de jeux de société et autres défis entre youtubeurs, avec un succès considérable. Le but du jeu ? Ne pas rire.
Qu'est-ce que ça dit, un chat qui rentre dans une pharmacie ?
Je sais pas.
Est-ce que vous avez du sirop pour Matou ?
C'est bien.
Tu sais ce que fait une fraise sur un cheval ?
Non.
Tagada, tagada.
Ouais, ça fait sens.
T'as craqué.
Le terme « dad joke » est apparu pour la première fois en 1987 dans un article du Gettysburg Times Newspaper. Sur Wikipédia, on lit la définition suivante.
Une blague de papa, ou « dad joke » en anglais, désigne une blague nulle parce qu'elle est banale, prévisible ou simplement pas drôle. Elle prend généralement la forme d'un calembour. En général inoffensive, la blague de papa est traditionnellement racontée par un père à sa famille, soit avec l'intention sincère d'être amusante, soit pour créer une réaction comique face à son côté démodé.
Le terme s'est peu à peu fait une place dans le langage courant, repris dans les médias, émissions de télé ou séries à succès comme How I Met Your Mother, qui ont contribué à la populariser.
You tell super corny dad jokes.
Shredded tweet. Oh, man. Shredded tweet.
And you do that thing all dads do with waitresses.
Hi, I'm Lori. I'll be your waitress this evening.
Hi, Lori. I'm Ted. I'll be your customer this evening.
She's right. Ted, you may be single and childless, but you're totally a dorky dad.
Dans cet extrait d'How I Met Your Mother, Ted est comparé à un papa parce qu'il fait des jeux de mots ringards et plaisante lourdement avec la serveuse du restaurant. Le concept des blagues de papa consolide donc une certaine image sympathiquement ringarde du père, le présentant comme une figure bonhomme et attendrissante qui, malgré la dimension assumée de lourdeur, de non-subtilité, voire parfois carrément un côté embarrassant, est une espèce de référence de l'humour. La blague de tonton existe aussi. Et les blagues de maman ou de tata, ça existe ? Si on tape « blague de maman » sur Google, on tombe sur des blagues du style « Ta mère est tellement grosse que... »
Ta mère est tellement grosse, elle tombe dans le Grand Canyon, elle reste coincée.
Professeur Folding, 1996, avec Eddie Murphy.
La mère de Reggie est tellement grosse qu'elle se fait peindre les ongles des pieds par un peintre en bâtiment.
Les blagues du style « ton père est moche » ou « ton père est chauve » existent aussi, mais soyons honnêtes, sans commune proportion. Toucher à la mère, c'est plus rigolo, plus subversif.
Eh oui !
Du coup, qu'est-ce que ça nous dit tout ça ? On a d'un côté le papa faiseur de blagues, même si elles ne sont pas drôles, et de l'autre côté, la maman qui apparaît davantage comme objet de blagues. Surtout, ça inscrit le papa comme la référence humoristique de la famille. La définition le dit, la blague de papa est traditionnellement racontée par un père à ses enfants. L'image que j'ai en tête à ce moment-là, c'est un décor des années 50. Ambiance pub Moulinex. Un père en bout de table, tout le monde qui se tait pour l'écouter. La mère qui ne dit rien, les enfants qui le regardent avec un mélange d'admiration amusée et d'exaspération attendrie. Pourtant, la blague est nulle. Mais c'est drôle parce que ce n'est pas drôle. Et c'est drôle parce que c'est papa. Même quand il n'est pas drôle, papa, il est drôle. Mais maman, où est-elle dans ce tableau ? Si je me représente la scène ainsi, même si je n'ai pas grandi dans les années 50, c'est parce que chez moi, les scènes de repas ressemblaient en partie à ça. Mon père en bout de table, mon père qui fait des blagues, relayé par mes trois grands frères. Puis j'en ai discuté avec des amis pour voir à quoi ça ressemblait dans leur famille à elles.
Ma mère, c'était la douceur, la gentillesse.
Mathilde, 31 ans.
Un peu la déconne, mais pas du tout le même humour que mon père. Et mon père, c'était un humour très acide, un peu rentre-dedans, tique-naillé, etc. Et faire des blagues pour adultes que moi, je comprenais pas à l'époque. Donc ça a longtemps été mon père, le modèle d'humour, et mon oncle aussi.
Moi, j'ai un papa qui écrit.
Chloé, 31 ans.
Et qui, quand j'étais plus jeune, écrivait particulièrement sur des formats d'humour, enfin qui travaillait avec des humoristes. Mais donc j'ai très jeune associé le fait de faire rire et de faire des blagues à mon père. Et c'est vrai que c'est l'une des personnes qui me fait le plus rire au monde. On est très proches là-dessus. Ma mère est quand même drôle, mais parfois malgré elle. Voilà, et c'était souvent quand même mon père et moi qui formons un duo contre ma mère, et donc on rit de ma mère plus qu'on rit avec ma mère. C'était assez ça dans notre trio familial.
Alors dans l'humour, il y a deux trucs.
Laura, 31 ans.
Il y a l'aspect un peu rigolo clown, ça c'est mon père. Et drôle en mode je te charrie et j'ai vraiment de la trop bonne répartie, c'est mon oncle Nasser. Franchement, il est trop drôle.
Ce qui est rigolo avec ma structure familiale, c'est qu'il y a...
Daphné, 30 ans.
La fratrie, ça fait fille, garçon, fille, garçon, fille. Enfin, la première, c'est quand même une fille. Et il y a une majorité de femmes aussi. Parce que mine de rien, on est 4 femmes et 3 hommes, du coup. Je pense que l'humour est important pour tout le monde, mais qu'il y a des personnes qui y accordent un peu plus de... Par exemple, qui y mettent plus de fierté. C'est sûrement ma mère qui en met le moins, je pense, de tout le monde. Et après, ceux qui valorisent le plus, c'est peut-être mon premier frère et puis peut-être moi. Et puis, il y a toujours, évidemment, le truc de traditionnel de mon père. C'est explicité dans la famille que mon père fait des jeux de mots un peu nuls, vaseux, blablabla. Et voilà.
Moi, je suis l'aînée de 5 filles.
Fleur, 40 ans.
Et le référent comique, c'était plutôt mon père. Qui avait l'habitude de faire des blagues, de tourner les choses avec humour, quoi, d'avoir un regard un peu amusé sur les situations et tout, mais toujours avec quand même un regard un peu cynique, quoi, un peu moqueur et un peu cynique.
Sur ce petit échantillon de mes amis, dont les parents, comme les miens, ont entre la 50aine et la 60aine, et malgré évidemment des nuances, on retrouve dans l'enfance cette idée commune d'un père associé à l'humour, dans une distribution assez nette des fonctions parentales.
Maman, maman, je préfère à mes jeux fous. Maman, maman, demeurer sur tes genoux et sans un mot dire entendre tes refrains charmants. Maman, 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 maman.
Papa, papa. En faisant cette chanson, papa, papa, je redeviens petit garçon et je t'entends sous l'orage user tout ton humour pour redonner du courage à nos cœurs lourds.
Car ce que ces représentations père-mère nous disent, c'est avant tout une question de répartition des rôles.
Et c'est mon père qui allait chahuter avec nous, faire le foufou, éventuellement casser des trucs, et ma mère qui était là, arrête de les exciter parce qu'il est 21h, il faut aller au dodo, quoi. Ouais.
Ma mère, elle était plus, elle, dans la gestion du quotidien avec nous, quoi. Donc, plus la figure maternelle traditionnelle. C'est pas quelqu'un de sinistre ou de triste, mais on était là-dedans. Et comme mon père était très souvent absent, c'est vrai que lui, quand il rentrait, c'était plus pour les blagues, les jeux, la rigolade, la détente, voilà.
Quand j'étais enfant, je voyais pas beaucoup mon père, puisque dans la restauration, c'est un peu compliqué, parce qu'il travaillait aussi le soir, etc. Et effectivement, quand je le voyais, du coup, il nous animait. Et je pense que ma mère, même si elle nous en a jamais vraiment parlé, je pense que ça l'a saoulé. Qu'il ait un peu ce rôle du gentil drôle, et qu'elle, du coup, elle soit obligée d'endosser le rôle de la maman chiante, parce que c'est elle qui gère tout le reste. Mais oui, clairement. Toute mon enfance, ça a été ça.
Quand j'étais petite, c'était ma mère qui venait me chercher la plupart du temps après l'école le samedi. Et quand je réclamais des bonbons à la boulangerie, elle disait quasi toujours non. Les plus rares fois où mon père venait, j'avais le droit aux bonbons. Lequel m'apparaissait le plus fun, à votre avis ?
Moi, je suis quand même aussi d'une génération où...
Ma mère, Claire, 69 ans.
En gros, c'était le père qui trimait et la mère, normalement, qui prenait en charge les enfants. Bon, moi, j'ai choisi, en plus, de travailler. J'ai pas lâché la gestion de la famille. Ton père, il rentrait tard, il voyageait beaucoup et tout. Moi, j'étais là aux heures où il fallait que faire à manger, surveiller les devoirs, vous coucher, etc. Lui, il était là pour le fun, quoi. C'est clair. Et quand il rentrait, il avait quitté le boulot. Et là, c'était open pour la rigolade, quoi. Il y avait des fois où je rentrais, j'étais furieuse parce que j'avais, avec beaucoup de mal, je vous avais couché et tout ça. Et puis il arrivait, coucou, me voilà. Et hop là, tout le monde sautait dans le lit et ça rigolait. Il racontait des histoires et voilà.
Et toi, tu te serais pas permis ça ?
De faire... Non, je me serais pas permis, non. Non, non, je me serais pas permis.
Mais est-ce que tu disais un peu, fais chier, ils doivent... Papa, il le trouve fun, et moi, c'est moi qui leur tombe un peu dessus. Et qui...
Ah ben ça, je me le suis dit, oui. Je me disais que c'était pas juste, que c'est moi qui faisais tout le boulot, et que du coup, j'étais pas drôle, et que c'était avec leur père que c'était marrant, quoi, la rigolade.
J'ai juste envie d'être une maman agréable, avec qui on passe du bon temps.
Fleur est la maman de deux filles, qui ont 6 et 10 ans.
Mais j'ai aucun mal à me dire, bon bah c'est Antonin qui est du côté de la grosse blague grasse, et puis moi je suis autre chose, mais de toute façon, c'est pas mon tempérament en fait. Ce qui peut me chiffonner un peu, c'est d'être perçue, moi, comme un peu la rabat-joie, celle qui va, qui est très dans le concret, dans le quotidien, et lui qui a un rôle sans doute plus sympathique auprès des filles, parce qu'il est moins dans la routine, en ce moment, hein, parce que c'est pas toujours le cas, mais je ramène sans doute les choses... Les enfants et tout, le quotidien a des trucs concrets, chiants, pénibles et que personne n'a envie de faire. Donc je suis un peu dans le rôle de la police et lui, il est plutôt dans le rôle du mec cool qui dit oui à toutes les sorties, qui est toujours prêt à faire des trucs sympas avec les enfants. Et moi, un peu moins. Donc ça, oui, ça me pèse un peu parce que du coup, ça me met d'emblée dans le rôle de la rabat-joie.
Si on caricature, le père fun, détendu, et la mère qui assure les tâches du quotidien. Et qui essaye avant tout d'être prise au sérieux. Attention, on est sur un modèle daté bien sûr, mais pas complètement disparu, et entretenu par certaines familles mythiques de la pop culture dont on continue à s'abreuver. Les Simpsons, Malcolm, American Dad, Modern Family, et j'en passe. Dans ces familles archétypales, on retrouve à chaque fois d'un côté une mère qui gère la maison, les enfants s'assurent de leur bien-être, la fameuse charge mentale, et de l'autre un père qui a l'esprit un peu plus libre pour se laisser aller à ses folies, à ses blagues, à ses moments de rigolade avec ses enfants. Et contrairement à la mère dont on attend qu'elle gère, qu'elle assure, le père a même le droit de se tromper, d'être distrait, foufou, imparfait. Et au contraire, ce sera rigolo.
Oui, je sais pas, il met le body à l'envers. Ou... Oh, dis donc, mais dis donc, qu'est-ce que t'as fait là ? Ah, c'est bien un mec, hein. Bah oui, un mec, aucun problème. Hein. Si c'est une nana qui le fait...
Oui, ça passe pas aussi bien.
Bah là, j'ai trouvé une chanson enfantine qui est apprise à l'école qui s'appelle Papa tête en l'air. Je sais pas si tu...
Ah non, je la connais pas, mais...
Papa tête en l'air, tu nous fais bien rire. Papa tête en l'air, c'est l'heure d'aller dormir.
Oh, c'est papa, mais quel papa ce papa, enfin,
ouais.
Toi, c'est...
ouais, ouais, ouais. Et maman tête en l'air,
ah,
non.
Ça, non, ça c'est un drame. C'est ouais. Un drame des frères Dardenne, sauf maman.
Ouais, c'est ça, maman tête en l'air. Ça se termine en infanticide, quoi.
Ouais, bah c'est ça, c'est un peu ça la nuance.
Tu as mis sur nos tartines du pâté pour le chat. C'est bien normal qu'on ne les mange pas.
Des exemples de films ou séries qui perpétuent ce genre de schéma binaire entre la mère sérieuse, dévouée et le père cool, il y en a plein. Mais j'ai choisi de m'attarder sur un film récent qui a rencontré un certain succès sur Netflix et qui, sous couvert de venir chahuter les représentations parentales, est en fait en plein dans les clichés du genre. Yes Day, sorti en mars 2021, repose sur le synopsis suivant. Des parents essaient de se prêter au Yes Day, soit un jour où ils disent oui à tout ce que leur demandent leurs trois enfants. Dans les limites du possible et du légal, bien sûr. Mais en fait, dès le début du film, l'enjeu est vraiment plus important pour la mère, jouée par Jennifer Garner, que pour le père. Car dans cette famille, la mère est décrite par ses enfants comme une dictatrice qui dit non à tout et n'est pas fun pour deux sous. Pourtant, en voix off, elle nous raconte qu'elle était quelqu'un de déluré avant de devenir mère. Mais maintenant qu'elle est maman, non, elle ne peut plus être fun.
T'as entendu ce que j'ai dit ?
Oui, mais tu as 14 ans. Tu ne peux pas aller à un concert sans parents.
Papa, aide-moi avec maman.
Quoi ? Pourquoi ? Elle a dit non ?
Mm-hmm.
Si ta mère dit non, alors c'est non. Désolée.
Vraiment ? Tu veux pas plutôt dire on dit non ?
Et donc à la maison, c'est maman la rabat-joie. Elle dit non à l'adolescente qui veut aller en festival, alors que le père avait dit oui, évidemment. C'est elle qui rappelle le rendez-vous parent-prof du soir, alors que le père comptait tranquillement aller au sport. C'est elle qui gronde quand le fils met de la pâte à gaufres partout dans la cuisine, alors que le père se marre et s'amuse à twerker avec les enfants. Lui, ça va. La parentalité n'a pas eu le même effet sur lui. Lui, il est fun. Sauf au travail. Là, il est autoritaire, attention.
Et je vous rappelle qu'il ne faut pas apporter de nourriture dans une zone de test. Je vais devoir te demander de jeter ton burger. Je déteste devoir dire non, mais c'est mon boulot. Ok ?
Ouais.
Et d'ailleurs, quand il gronde ses employés, on lui répond.
Désolé, maman.
Révélateur, n'est-il pas ? Bref. Enfin voilà. Après maintes aventures, les enfants se rendront compte que mettre des règles, ça fait pas de mal, que leur maman, si elle est stricte, c'est par amour, et le père se dira que c'est pas cool de laisser la mère être la rabat-joie depuis tout ce temps. Et en fait, maman, elle peut être marrante. Enfin, il aura fallu faire tout un film pour se rendre compte de ça. Mon amie Chloé revient sur l'humour des hommes dans sa famille maternelle. Un humour particulièrement lourd et régressif.
Enfin, vraiment, moi, quand je réfléchis voilà, à des scènes familiales d'humour du côté des hommes, c'est souvent des choses du type, oui, tire sur mon doigt, enfin, des petites scènes comme ça liées au paix ou au ro, ou au voilà, pouet-pouet sur les fesses de la femme, ou pouet-pouet sur les seins, c'est beaucoup des choses comme ça. Et puis des imitations, quoi, des mauvaises imitations entre hommes.
Et les femmes, dans ces cas-là, elles font quoi ? Est-ce qu'elles participent parfois, ou est-ce qu'elles sont juste spectatrices dans ton souvenir ?
La réponse des femmes dans ces cas-là, c'est plutôt « Oh, vous êtes lourd, oh là là, bande de gamins !» Et j'ai l'impression que je retrouve assez ça dans mon cercle aujourd'hui amical.
Les gamins, c'est assez révélateur, ouais. Le truc un peu infantilisant, enfin, l'éternelle répartition entre le gamin et la mère, quoi. Mm-hmm.
Et oui, gamin, ce n'est pas anodin. Papa tête en l'air, papa foufou, papa gamin. Du coup, maman doit compenser et n'a plus trop la place pour rigoler.
J'y pense, là, des fois, et... Oui, si, ça aurait été mon rêve, en fait, d'être une mère un peu déjantée. Vous faire faire des trucs un peu absurdes, vous faire rigoler. Des fois, je regrette de pas avoir fait ça.
Et qu'est-ce qui t'en empêchait ?
Je sais pas, ouais. Timidité, peur de mal faire. Oui, pas peur de pas être dans mon rôle de mère, quand même, de bonne mère, soi-disant.
Parce que l'image de la bonne mère, elle a pas forcément trop cette corde-là à son arc.
Ouais. Mmh. Bah, en plus, j'avais choisi une vie. Quand même, j'ai choisi de travailler. J'avais 4 enfants, donc il y avait. C'était tout minuté. Fallait pas qu'il y ait trop de que ça dérape, quoi. En plus, mon Jean-Marc avait le rôle un peu de faire déraper les choses. Donc, il fallait bien que quelqu'un ait à la baraque. À la limite, il aurait été hyper sérieux. J'aurais pu prendre la place.
Et oui, c'est bien une question de place qui se joue. Bon, on a parlé du papa gamin et irresponsable. Parlons maintenant du papa lourdeau et embarrassant. Qu'est-ce que ça nous raconte, ça ? Revenons aux blagues de papa, et notamment à la scène de How I Met Your Mother, où Ted est comparé à un papa.
T'es presque déjà papa, alors ?
Ouais, ça c'est vrai !
Qu'est-ce que vous racontez ?
Ted, réfléchis bien. On aurait dit des blagues ringardes comme un papa.
Un céréal killer.
Céréal killer !
Et comme tous les pères, tu plaisantes avec les serveuses. Bonsoir, je m'appelle Laurie, je vais prendre votre commande.
Bonsoir Laurie, je m'appelle Ted et je vais vous passer ma commande.
Elle a raison, Ted, t'es peut-être célibataire et sans enfant, mais t'es carrément un père ringard.
La troisième raison qui fait que Ted est papa avant l'heure, c'est qu'il gronde ses amis quand il casse un truc. Mais bon, deux caractéristiques sur trois qui permettent de dire que Ted est, je cite, déjà complètement un papa, sont directement liés aux blagues ringardes et gênantes qu'il fait d'abord à ses amis, puis à la serveuse du restaurant. À l'image, tout le monde est embarrassé, tandis que Ted rit tout seul. Or, c'est ici un motif comique censé le rendre sympathique et attendrissant. Et oui, car même si faire des blagues de papa, c'est ringard, parfois carrément gênant, on entretient le charme suranné de cette image d'un père bonhomme et gentiment maladroit. Mais si c'est souvent inoffensif, c'est aussi parfois un peu problématique. Dans cette scène, Ted monopolise toute l'attention et met même mal à l'aise la serveuse. Pourtant, on trouve ça si charmant. Ben oui, c'est tellement un papa. Finalement, c'est une certaine façon de faire de l'humour aussi. Qui part du principe que l'auditoire doit nous prendre tel qu'on est. On s'impose à lui. Oui, ma blague est nulle, mais je ne ferai pas l'effort d'en faire une plus drôle, parce que ça me fait plaisir de la faire. Une façon aussi peut-être de vérifier que malgré la mauvaise qualité de notre blague, les personnes en face nous écouteront quand même. Qu'on n'a pas perdu ce pouvoir-là. Une façon de tester notre impact sur eux. Une demande non pas seulement d'adhésion, mais de soumission presque. Comme dans cette scène de Friends entre Chandler et son patron, un vrai adepte des blagues de papa.
Alors si ça ne t'ennuie pas tes trucs de boulot, moi je vais arrêter.
Mais je ne fais que rire aux blagues de mon patron, je vois pas quel mal il y a à ça.
Je préfère éviter de sortir avec ce garçon un peu beauf et sans intérêt quand je passe de bons moments avec mon petit ami, que je respecte.
Que tu quoi?
Ah, je vous présente mes excuses pour le café que fait Cara. Je veux surtout éviter que vous vous en preniez à lui parce qu'il est loin d'être assez fort pour se défendre tout seul. Vous avez entendu ma blague ?
Comment ?
J'ai fait une blague. Qu'est-ce qui vous arrive ?
Eh bien, disons que je trouvais pas que c'était drôle. Désolé, monsieur.
Pardon ?
Disons que je...
Chérie, hein ? J'ai la vague impression que tu n'as pas compris la blague.
Dans cette scène, on voit bien que Chandler est contraint de rire, parce que prendre le risque de vexer son patron, c'est risquer d'être pénalisé dans son travail. La relation de pouvoir est évidente ici. Mais c'est bien ce même rapport de force qu'on retrouve, dans une moindre mesure, dans les blagues de papa. Avec d'un côté une personne qui fait une blague sans se soucier spécialement de son auditoire, sans se décarcasser à en faire une de qualité, et qui attend bien évidemment une réaction. Et de l'autre, une personne qui se voit contrainte de l'écouter, de rire, ou au moins de réagir pour ne pas mettre le blagueur en difficulté.
Bah, le public est déjà conquis. Mon beau-père, ça lui arrive de temps en temps de me dire « Bon, tu me dis si je l'ai déjà faite. Hein. » Mais évidemment que je lui dis pas « Ben non, Alex, tu l'as déjà fait 10 fois, j'en peux plus de ta blague. » Évidemment que je vais pas lui dire ça. Je dis « Mais dis toujours. On rigole. Montrer un visage plutôt avenant face à la blague. Oui, on t'écoute. Oui, on est attentif. Oui. » Mais en fait, par politesse et puis pour rester dans l'humeur, pour pas faire de vagues, tout le monde dit, puis on passe un bon moment, donc on va pas casser les choses et jouer les rabat-joie, évidemment. Ça lui fait plaisir, voilà. C'est pour faire plaisir, c'est tout. Hein. Mais c'est vrai que peut-être qu'à force, ça crée une espèce de confiance.
pour le patriarche qui se dit bon bah de toute façon j'ai mon public avec moi et puis et voilà quoi.
Personnellement, c'est une façon de faire de l'humour qui me déplaît un peu. En force, qui s'impose à l'autre. Comme ces gens qui rient de leurs propres blagues. Le but d'une blague, c'est bien de faire rire l'autre à la base, de partager quelque chose, non ? Dans son intitulé même, « Blague de papa » inscrit dans sa définition l'auteur de la blague, avant son contenu, avant son effet, avant son destinataire. Bien sûr, la blague de papa n'est pas systématiquement oppressive. Elle peut même être menée dans un vrai désir de partage et avec autodérision. Néanmoins, à l'origine, c'est bien révélateur de la façon dont l'humour assoit le papa dans son rôle de patriarche.
Le grand-père d'Antonin, qui a 93 ans, il a encore un vivier de blagues juives impressionnant. Et il peut les enchaîner. Et alors, il y en a qu'on a déjà entendu et qu'on réentend, mais je crois que la figure du patriarche va avec aussi ce petit rôle comique au sein d'une famille. Et puis c'est des blagues qui se transmettent. Il y a aussi cette idée, je pense, de transmission de la blague, en l'occurrence de la blague juive, là, qui, du côté juif d'Antonin, qui est quand même assez présent, quoi.
Dans la famille de Daphné, c'est peu à peu instauré un vrai rituel autour des blagues du papa.
Un des trucs préférés de mon père, c'est de dire, à propos de peinture avec des femmes voluptueuses, blabla, de dire, mais est-ce que c'est de l'art ou du cochon ? Voilà, ça c'est un de ses jeux de mots. Bref, celui-là, il le ressort régulièrement, quoi. Du coup, mon père, son grand truc, c'est des jeux de mots vraiment sur la langue. Et il y en a des plus ou moins bien. Et au bout d'un moment, on a instauré une espèce de rituel, quoi, qui est qu'on lui mettait des notes. C'était une contre-blague, quoi, des enfants. Mais en gros, on disait, bon, c'est tellement nul que là, il faut que tu t'améliores, quoi. Donc, c'était sur 10. Et sa note moyenne, c'était 0,5. Et quand il faisait un bon jeu de mots, genre un truc... pour le coup, c'était genre 2.
Est-ce qu'il est devenu plus exigeant, lui, avec ses blagues ou pas ?
Non, non, non. Il y avait une sorte de complaisance du 0,5, du coup. C'est vrai que quand j'y pense, c'est vraiment... c'est l'idée de fausse révolution, quoi. C'est le 0,5 qui était censé être une sanction, était une manière de valider de manière humoristique. Ça fait que renforcer, lui, sa position et sa place de patriarche, quoi.
Alors en soi, tout cela est inoffensif, ludique. Ça soude même la famille autour d'une tradition collective. En revanche, c'est assez révélateur.
Parce que c'est aussi une histoire de prise de parole, ça. Finalement, interrompre tout le monde pour faire une blague, ou se permettre d'interrompre une réflexion en cours, parce que hop, d'un seul coup, on a une idée, un petit calembour qui vient, un jeu de mots. Enfin, il faut pouvoir le faire, quoi. Et finalement... Je trouve que ton sujet, il interroge aussi la place de la femme, enfin, sa capacité ou sa volonté de prendre la parole dans un groupe ou pas. Donc, et là-dessus, c'est vrai que là, il y a vraiment, vraiment des choses à dire, quoi. Sans doute des réajustements à faire, parce que là, il y a de l'autocensure de la part des femmes, ça c'est évident.
Moi, ce qui m'agace, c'est qu'il n'écoute pas. Comme beaucoup de papas, je crois... Il a préparé sa blague et du coup, il commence à avoir un fin sourire. Et là, tu te rends compte qu'il t'écoute pas pendant 5 minutes. Jusqu'à ce qu'il dise la blague, il écoute plus rien.
Chez moi, c'est pareil. Mon père a une large tendance à ne pas écouter. À décrocher du fond de la conversation, parfois sérieuse, intime, pour ne s'accrocher qu'à l'enrobage des mots et leurs possibilités humoristiques.
Quand on est toujours dans la dérision, dans le rire, dans l'humour, c'est pour pas montrer tout le reste, hein, finalement. Évidemment, c'est très agréable d'arriver dans une famille où tout le monde rit constamment, où la bonne humeur est là. Mais bon, moi, je suis pas comme ça. Il y a aussi des moments où j'ai pas envie de rire, quoi. Tout me fait pas rire et j'ai pas envie de me forcer socialement à rire aux blagues parce qu'il faut être... Il faut donner l'apparence d'une famille où tout va bien.
Let's keep smiling. Let's keep laughing. Let's be happy. Ho, 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 ha.
Finalement, ces blagues de papa promptent parfois à interrompre une conversation pour un bon mot, à ignorer l'émotion du moment pour un trait d'esprit, trahissent une tendance un brin autocentrée à s'écouter parler. à braquer le projecteur sur soi et à jouir de façon plus solitaire que collective de son humour autoproclamé. Forcément, puisqu'on les a habitués, nos papas blagueurs, quoi qu'ils disent, utiles ou inutiles, drôles ou ratés, à y donner de l'importance. À partir de là, la blague de papa apparaît comme un vrai levier de pouvoir et elle peut être utilisée et sellée comme un argument de séduction. Sur les applications de rencontres, je lis régulièrement sur les profils de garçons, je cite
« Blague de papa, jeu de mots pourris, humour douteux, j'ai un humour qui vole pas super haut, blague pas drôle, j'espère que tu aimes l'humour pourri, je recherche une fille qui accepte l'humour même quand il est catastrophique. »
On parlait de demande de soumission. Et tout ça, ce sont des arguments de séduction. Mais pourquoi tu t'en vantes au juste? Et pourquoi tu me l'imposes? Moi, je suis mauvaise en pâtisserie, je ne vais pas t'imposer un gâteau pourri ou catastrophique.
J'espère que tu aimes les muffins pas cuits. Ma tarte tatin est infecte. Je cherche un mec qui accepterait de la manger avec délectation malgré tout.
Bref, j'ai swipé. Nous reviendrons plus tard sur les questions de séduction. Notre épisode touche à sa fin. Assez parlé des papas. À quoi ressemble l'humour des mamans? Quel rôle ont-elles dans le développement d'une autre? Les prises de conscience féministes des dernières années peuvent-elles avoir un impact sur la place humoristique des mamans? Nous questionnerons tout cela dans notre prochain épisode. En attendant, maman, t'aurais pas une blague à me raconter?
Oh non, pose pas cette question-là. Je suis incapable.
Tu racontes pas des blagues? Bah, une blague qui te fait rire. Il y a pas des blagues qui te font rire.
Celle que je préfère, c'est quoi le cri de la fourmi? Tu la connais?
Oui, je crois. Redis-moi.
La fourmi cronde.
Oui.
Bon. Bon.
Bon, bah voilà. Les mères aussi savent le faire.
Ah, celle-là, elle est bien.
Ah, elle est bien, celle-là.
C'est quoi ton genre d'humour?
C'est quoi ton genre d'humour?